Bonjour Frédéric Canadel.
Bonjour.
Vous êtes le PDG du groupe Canadel. Nous sommes à votre rencontre à Trie-sur-Baïse pour découvrir cette entreprise. Cette entreprise qui est une entreprise d'artisanat qui exploite le bois à l'origine, c'est son histoire, mais pas seulement, puisque aujourd'hui l'entreprise Canadel est connue, on pourrait dire, pour sa spécialité de tonnellerie. Mais entre l'exploitation forestière et la tonnellerie, il y a tout un parcours que vous allez nous expliquer. Peut-être pour commencer, un petit brin d'histoire pour nous expliquer, pour nous raconter comment votre famille s'est implantée ici et a fondé cette entreprise, donc l'entreprise qui porte le nom de votre famille, Canadel.
Voilà, donc la société Canadel s'est établie dans les années 50 à Trie-sur-Baïse, où nous sommes aujourd'hui. On est originaire de Catalogne, et mes arrière-grands-parents étaient réfugiés politiques suite à la guerre civile d'Espagne. Et tout à fait par hasard, à cette époque, il y avait déjà des demandes de produits de merin pour fabriquer des fûts. Sur les quais de Bordeaux, il y avait des petits artisans qui fabriquaient des barriques. Alors c'était tout à fait confidentiel, mais c'était le début. Effectivement, on a très vite fourni du bois pour faire la fabrication de tonneaux.
Les merins, ce sont des grandes planches qui sont destinées spécifiquement à la tonnellerie ?
Voilà, le merin, en fait, ce sont des pièces débitées dans le fil du bois, essentiellement en chêne. Bon, il y a d'autres essences comme l'acacia où on peut faire des tonneaux, mais essentiellement en chêne, donc débité dans le fil du bois pour éviter la porosité d'une barrique qui font 1 mètre de long généralement pour voilà, confectionner des fûts qui vont de 225 litres à 500 litres de contenance pour élever des grands vins.
Alors, qui dit exploitation forestière dit possession de parcelles où est-ce que votre famille, arrivant, s'installant ici et commençant à travailler le bois, où est-ce qu'elle a pu exploiter tous ces chênes nécessaires ?
Au tout début, ça a été une recherche de fournitures très locales auprès de propriétaires privés. Très généralement des familles d'agriculteurs qui avaient des bois à vendre. Et c'est toujours le cas, en fait, en partie. Mais très bien évidemment, notre principal fournisseur aujourd'hui, c'est l'Office national des forêts, à qui nous achetons la plupart, à peu près 80-90% de nos approvisionnements, sur tout le territoire français.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bois que vous travaillez ici ne vient pas seulement des Hautes-Pyrénées ?
Ah non, pas du tout. On essaie d'acheter le plus de bois possible dans les Hautes-Pyrénées. On a d'ailleurs une démarche qu'on a initiée depuis 5-6 ans de présence sur le salon d'agriculture à Tarbes, où nous avons un stand pour nous aider à justement rencontrer les propriétaires locaux qui ont besoin de vendre une partie de leur bois pour leur patrimoine privé. Mais on achète une énorme majorité de nos grumes auprès de l'Office national des forêts sur tout le territoire, que ce soit en forêt domaniale ou en forêt communale dans tous les villages du sud-ouest.
Alors du coup, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. D'abord, d'un coin à un autre de France, donc la température, le climat n'est pas le même, ça change peut-être la qualité du bois. Est-ce que ça, c'est important pour vous ?
Alors, il faut savoir qu'il y a des terroirs de forêt. Comme pour le vin, il y a des terroirs pour faire du raisin. Il y a des terroirs pour faire des grandes forêts. Et évidemment, si on doit élever des grands vins rouges, il faut acheter du bois, principalement dans des hautes futaies qu'on trouve dans les grandes forêts domaniales du centre de la France. La plus connue étant la forêt de Troncé. Il y a aussi la forêt de Bercé qui est très connue, la forêt de Fontainebleau, où il y a des terroirs de forêt qui vont être plus adaptés pour élever des grands vins, notamment les grands vins rouges.
Ça veut dire que dans vos équipes, parmi vos équipes de salariés, il y a des spécialistes qui peuvent détecter les bons arbres qui vont faire les bonnes planches à travailler pour faire de bons tonneaux.
Voilà, alors la société Canadel est labellisée EPV depuis 3 ans et c'est un des...
EPV.
Entreprise du patrimoine vivant. Donc, et c'est un des savoir-faire qui a pesé dans l'attribution de ce label. Effectivement, on a une vraie capacité de bien anticiper les qualités de bois. C'est notre savoir-faire aujourd'hui que nos clients viennent chercher chez nous.
Ça veut dire qu'on reconnaît un arbre qui va bien.
Voilà, on est capable, de, en fonction d'un lot de bois qu'on a acheté, de le transformer ou pour une certaine qualité de barrique, pour adapter le résultat que le client cherche dans ses élevages.
C'est-à-dire que chaque arbre est unique et va donner un résultat qui lui est propre.
Alors bon, ça, effectivement, chaque qualité de bois, en fonction des régions, en fonction de leur terroir, en fonction de la qualité de leur grain, c'est-à-dire la pousse de l'arbre, va donner un profil aromatique dédié à la barrique. Ça, c'est un des facteurs qui va de la constitution d'une barrique. C'est l'origine du bois. Mais avec ça, il faut adosser un traitement spécifique de séchage qui doit être naturel, qui doit durer entre 24 et 36 mois. Et évidemment, une chauffe de la barrique pour bien extraire les arômes recherchés pour les clients. Cette expertise, on l'a également avec, depuis 3 générations ou 4, on connaît évidemment les attentes de nos clients et on sait comment sélectionner la bonne matière pour que les résultats soient le plus fidèles possible. Ça, c'est notre quotidien, c'est d'assurer à ce client cette qualité d'année en année.
Est-ce qu'il y a une mode? Qu'est-ce que cherchent les clients aujourd'hui? Peut-être que ça dépend aussi de l'origine des clients selon les pays.
Alors la Société Canadelle, on est vraiment spécialisée dans l'élevage du vin. Beaucoup de nos confrères ou collègues sont également sur le spirits, c'est-à-dire tous les spiritueux, le cognac, l'armagnac, le whisky. Dans le vin, la mode, la tendance, c'est de relever la tension et la fraîcheur du vin et de respecter le fruit du vin. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, où nos clients y cherchaient des vins très boisés et que la barrique soit très marquée sur le vin. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent un aspect de bois très délicat pour élever, améliorer la tension et la fraîcheur du vin, respecter le fruit du vin, l'augmenter, l'améliorer, mais en aucun cas que le bois soit trop prégnant dans le vin.
Alors, il y a une autre question aussi, c'est celle de l'environnement, puisque pour faire votre travail, vous devez abattre des arbres. Alors, quid de l'environnement, du respect des forêts, qui est aussi une question qui prédomine aujourd'hui, comment vous faites ?
Bon, le terme abattre n'est pas très heureux dans notre... Et on essaie de pas l'utiliser, parce qu'en fait, on n'est pas là pour abattre des arbres. On est... Faut comprendre une chose, qu'effectivement, nos métiers permettent de régénérer la forêt. L'exploitation forestière française réalisée par l'Office national des forêts, c'est très vertueux, parce qu'en fait, ça va durer 20 à 30 ans, une parcelle de forêt. Et pendant ces 20 à 30 ans, les spécialistes de forestiers de l'Office national des forêts vont tout faire pour régénérer cette forêt et produire du bois de haute qualité pour alimenter l'industrie du bois. C'est 400 000 salariés aujourd'hui en France, l'industrie du bois. Et en fait, aujourd'hui, la chance qu'on a en France, on a appliqué une sylviculture sur le chêne très précise, qui date depuis Philippe le Bel, je crois, donc 12 ou 13e siècle, sur une vision de très long terme qui a permis d'avoir ces forêts. Ces forêts françaises de chêne ont toujours été gérées pour fabriquer quelque chose. Que ce soit des mâts, des bateaux, c'est vraiment le Colbert qui a initié les mises en réserve de vieux chênes pour pouvoir réaliser ces fûts, ces bois prestigieux que nous utilisons aujourd'hui pour faire les fûts. Et ce modèle de sylviculture, il est très très important de le conserver parce que c'est ce système-là qui va permettre de prélever les derniers arbres qui ont effectivement 200 ou 200 ans aujourd'hui, qui vont permettre que les nouvelles générations d'arbres se renouvellent. Aujourd'hui, je crois que c'est quand on va prélever les 100 derniers arbres sur une parcelle, sur un hectare de forêt française, il y a 1 million de semis qui vont repousser derrière. Donc c'est ce système-là, avec la régénération naturelle du chêne, qui va permettre qu'on renouvelle la forêt. C'est pas, si vous voulez, des abattages d'arbres qui, effectivement, vont créer à un moment donné peut-être des polémiques sur la qualité des sols ou sur la préservation des sols. Nous, c'est une sylviculture vertueuse qui va durer 250 ans sur un cycle. Et au bout de 250 ans, le chêne est en fin de vie, clairement. Donc, notre activité va pouvoir aussi financer ce cycle. Parce que si vous ne vendez pas ces derniers arbres, évidemment, il n'y a pas d'argent pour reboiser derrière. Donc, effectivement, on est sur un mode de vie très protecteur, mais sur des temps très longs.
Alors, pour en revenir sur l'histoire de l'entreprise, parce qu'on l'a un peu abandonné vite, cette histoire de l'entreprise. Donc, vous êtes la quatrième génération de cette entreprise Canadel. Entre ce qu'a fondé et ce qu'a voulu fonder votre arrière-grand-père et puis l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, avec, c'est vraiment un groupe avec plusieurs entreprises et plusieurs métiers, quelles ont été les grandes étapes pour en arriver là aujourd'hui à un groupe avec 12 entreprises et vraiment un grand nombre de métiers spécifiques ?
C'est au gré de certaines opportunités qu'il y a eu des modifications dans la stratégie de l'entreprise. Et en fait, le cœur de la stratégie de l'entreprise, c'est de... On était capable de sourcer différentes qualités de bois, que du chêne, enfin principalement du chêne, et avec toutes les qualités du bois, qu'est-ce qu'on pouvait en faire en fait ? Et donc l'entreprise a fait beaucoup de premières transformations dans un premier temps, beaucoup de reventes de grumes, et au fur et à mesure des opportunités, il a fallu... On a très vite compris, mon grand-père et mon père... Et mon grand-père a très vite compris qu'il fallait quand même faire de la deuxième transformation pour pouvoir facilement acquérir la matière première achetée soit à destination d'une seconde transformation dédiée pour qu'elle soit vraiment opérationnelle, enfin, que ça fonctionne par rapport au marché qu'on ciblait. Et donc il y a eu plusieurs événements, notamment la création d'une usine de meubles qui a duré 15 ans. En deuxième transformation, parce qu'à l'époque, c'était un marché qui fonctionnait très bien. Mais à un moment donné, ça a dû s'arrêter et on s'est réorienté complètement vers l'élevage du vin. Donc aujourd'hui, avec toutes les qualités, on va évidemment produire des tonneaux en deuxième transformation et également toute une gamme de boisages œnologiques qui vont élever des vins avec des coûts nettement inférieurs à la barrique.
Aujourd'hui, l'entreprise, c'est combien de salariés ?
Donc le groupe aujourd'hui est constitué à peu près de 150 salariés, avec une forte présence mondiale, puisqu'il y a 80% du chiffre d'affaires est destiné à l'export, puisqu'évidemment, on va vendre des tonneaux, des solutions d'élevage sur tous les territoires où il y a des grands vins. Donc.
Avec quels territoires principaux ? Peut-être les États-Unis, l'Amérique latine ?
Oui, principalement, le principal gros marché, c'est les États-Unis, la Californie. Californie, État de Washington et Oregon, où il y a les pinots noirs et chardonnay qui sont très réputés là-bas. Et après, tous les autres pays, alors les plus gros pays étant l'Espagne, l'Italie, l'Amérique du Sud, l'Argentine, et un peu l'Océanie, tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande. Mais le principal marché reste les États-Unis.
Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que vous auriez pu, avec un tel développement de votre marché, aller implanter l'entreprise ailleurs. Vous êtes resté ici à Trie-sur-Baïse. Ça, c'est vraiment un souhait de rester ici, que le siège de l'entreprise soit ici, avec quand même des succursales ailleurs.
Oui, oui, on a plusieurs succursales dans l'Oise, dans Bourgogne également, à côté de Toulouse. Mais on a le siège social est resté localement. Parce qu'on a eu la capacité aussi d'embaucher des expertises sur le site de Trie-sur-Baïse, qui n'était pas forcément évident pour nous d'aller rechercher des bons managers ailleurs. Donc ça a pu se... On a pu rester ici tout en développant dans d'autres secteurs l'entreprise, surtout en deuxième transformation, par acquisition. La dernière acquisition qu'on a réalisée, c'était à Montpellier l'année dernière. Donc malgré ça, on a pu rester local et garder le siège social de la société. Et bien sûr, on est très attaché au département et à notre histoire, donc ça c'est pas prêt de changer.
Vous avez évoqué la transmission, et c'est ma dernière question pour ce premier volet. Justement, la transmission, comment elle se fait ? Est-ce que on apprend le métier ici, ou où est-ce qu'on peut apprendre ce métier de tonnelier aujourd'hui en France ?
Alors le tonnelier, oui, des centres de formation, des écoles, on a des maîtres tonneliers qui ont le CAP de tonnelier dans nos usines, mais il y a toute une partie de gens quand même qu'on a formés en interne. pas spécifiquement aux tonneliers. Après, pour les métiers de première transformation du bois, là, c'est beaucoup moins évident. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas d'école de merendier. Donc ça, c'est une formation qu'on doit faire en interne obligatoirement. Il y a d'autres métiers dans l'entreprise, comme on a une dizaine d'œnologues salariés dans l'entreprise pour commercialiser les barriques ou les produits œnologiques. Et ça, ce métier-là est facile à... Enfin, on forme beaucoup d'œnologues en France. Pour les métiers de première transformation du bois, c'est beaucoup plus compliqué.
Merci beaucoup Frédéric Canadel. On va aller découvrir ces ateliers et puis voir un petit peu comment le bois est travaillé ici à Trie-sur-Baïse dans les bâtiments de l'entreprise Canadel. Je vous suis. Voilà, alors hop, on continue cette rencontre avec Frédéric Canadel à Trie-sur-Baïse et maintenant nous découvrons les ateliers.
Donc là, on voit une pile. Donc là, ça sent le bois très frais hein, qui sort de l'usine, qui est à 80% d'humidité, une fois débité. Et c'est ce bois-là qui va sécher pendant 2 ans. Et donc, on a préparé la pile pour qu'elle reçoive, évidemment, une bonne exposition à l'extérieur pour pouvoir sécher naturellement.
Ensuite, elle est transportée
sur des parcs à bois. Et là, pendant 2 ans, ça ne va pas bouger. 2 à 3 ans, ça va rester sur les parcs. Ça va être le mesurage de chaque grume et on va pièce par pièce mesurer en longueur de 1 mètre l'endroit évidemment où on va tronçonner pour... Là on établit en fait la longueur du fût. C'est-à-dire que 1 mètre ça va être le fût de 225 litres, 1,05 m 300 litres, 1,10 m 400 litres. En fonction de la longueur du débit, on va créer la contenance du fût. Voilà, ça c'est l'opération délicate en fait, c'est fabriquer du merin, c'est fendre le bois. Parce que quand on fend le bois, le fil du bois n'est pas coupé. Et si le fil du bois est coupé, là il peut y avoir une porosité dans la barrique ou une casse de la douelle quand elle s'entre. Donc la seule possibilité de conserver cette flexion du chêne, c'est de débiter dans le fil du bois. Et pour ça, il faut fendre. C'est-à-dire qu'on va écarter les fibres du bois sans les couper.
Voilà, donc là, on aperçoit des piles de merin qui ont séché pendant 24 mois. Et à partir une fois qu'elles ont atteint la bonne maturité de séchage naturelle, on va être capable de les transformer en tonnellerie. Le bois reste en l'état une fois sec, mais une fois qu'on a monté le fût, il va être arrosé et chauffé. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir cintrer la barrique pour lui donner la forme...
Ah, il y a une odeur très particulière.
Voilà, on sent le chêne. Voilà. Et donc là, la première opération, ça va être d'appareiller les fûts. Donc on va, à ce moment-là, déterminer vraiment la barrique. C'est-à-dire qu'on va donner les 30 pièces qui vont composer un fût. Et on va, bien évidemment, l'appliquer une traçabilité très précise. Donc en fait, sur chaque barrique, on va tracer des lots de bois qui vont, à un moment donné, pouvoir remonter la traçabilité de chaque pièce pour tous les clients qu'on a besoin de fournir, comme dans toute industrie agroalimentaire.
On voit que là, les ouvriers sont très concentrés. Qu'est-ce qu'ils vérifient ?
Là, ils vérifient s'il n'y a pas un défaut.
Quel genre de défaut ?
Si le fil du bois peut être coupé pour éviter un cintrage quand ça... Voilà, par exemple ici, on voit que cette douelle là, comme le fil du bois n'est pas très respecté, elle peut casser pendant le cintrage. Donc c'est du bois qui est très coûteux. Le chêne français qui a poussé pendant 250 ans, c'est une matière très chère. Donc s'il y a un petit défaut technique, on va quand même essayer de profiter le bois et d'essayer de le passer, mais on risque une casse quand la barrique va être cintrée. Voilà, donc on essaie de prioriser la matière première parce que c'est une fois qu'elle est arrivée à ce stade-là, elle a déjà subi 2 transformations, des tris de bois, des séchages. Donc c'est une matière très coûteuse qu'il faut impérativement préserver et optimiser. Donc une fois que la fût est appareillée, on va donc l'humidifier et le chauffer pour qu'il puisse... La magie du chêne en fait, c'est qu'une fois qu'on l'a chauffé et humidifié, il devient flexible, souple. Et il va se cintrer.
Pourquoi vous dites la magie du chêne ? D'autres arbres, ce serait impossible avec d'autres arbres ? Le chêne a vraiment
C'est les caractéristiques techniques du chêne qui vont permettre qu'il va, avec la chaleur et l'eau, devenir un peu plus flexible.
Et une fois qu'on l'a chauffé définitivement, là par contre ça ne revient plus.
Ah oui.
La douelle est formée et ça ne revient plus en arrière.
Donc c'est là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on fait la forme.
Voilà, on fait la forme à cette machine qui va cintrer le bois pendant la chauffe. Et après, on va rechauffer. Une fois que la forme est donnée, c'est à ce moment-là qu'on va passer à la deuxième, à la chauffe d'extraction des arômes, qui est la chauffe très importante pour. Voilà, c'est là qu'on va décider un peu des arômes qu'on va.
Donc
si on cherche des profils un peu vanillines pour respecter le fruit du bois, on va faire plutôt des chauffes douces. Si évidemment nos clients ils veulent des bois qui sont beaucoup plus présents en termes de. Sur des notes de caramel, de noix de coco, de toffee, on va faire des chauffes beaucoup plus fortes. Donc là on voit des fûts qui sont avec des chauffes plutôt fortes. Donc là, l'extraction qui va être faite va être des profils un peu plus boisés, un peu plus tanniques. Il y a des styles de vin qui recherchent ça. La tendance, elle est plutôt, comme je vous disais précédemment, sur un respect du fruit du bois, sur des profils de chauffe plus légers.
Toutes les étapes, là, ça dure combien de temps?
Alors ici, sur cet atelier-là, on fabrique à peu près 50 pièces par jour, 50 fûts par jour. Donc, ça fait un 8 heures.
Alors ça, ce sont des métiers que l'intelligence artificielle ne pourra jamais vous prendre. Ou un peu ?
Alors c'est une bonne question. Non, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer le bois ni le tonnelier. En revanche, il y aura certainement des applications qui vont nous permettre de mieux anticiper nos consommations de bois, mieux vérifier nos rendements en matière. L'intelligence artificielle dans nos métiers va nous aider, va nous apporter des choses. Mais effectivement, ne va pas détruire.
Parce que c'est quand même un métier de l'authenticité.
Voilà, et puis je veux dire, c'est comme un chef cuisinier, c'est qu'à un moment donné, il vous faut des bons tonneliers pour pouvoir faire des fûts d'excellence. C'est la main de l'homme là qui sera toujours présente pour faire un tonneau de qualité. Oui. Par contre, dans tout ce qui est sécurité du travail, conformité, l'intelligence artificielle va sûrement nous aider dans l'avenir à avoir des machines plus précises dans la transformation.
Donc c'est plutôt pour le confort de l'artisan.
Confort oui, tout à fait. Ça va être une aide plus qu'un remplacement.
Oui. Alors ensuite, continuons.
Donc une fois que le fût a été donc toasté, vérifié, on va aussi produire des fonds des barriques qui vont représenter à peu près 30% de la surface du fût. Pour que le fût ne soit pas poreux.
Ah mais alors attendez, parce que là je vois des tonneaux de différentes tailles. Alors question voilà. Bête, parce que les tonneaux, combien de litres contiennent-ils?
Alors voilà, le tonneau standard, enfin le tonneau bordelais, donc il y a deux grosses tendances de tonneaux pour le vin de fût. Il y a le fût bordelais qui va faire 225 litres et le fût bourguignon qui historiquement fait 228 litres. Donc, bien évidemment, avec ça, c'est vraiment le fût traditionnel. De plus en plus, on va pour cet esprit un peu d'élever des vins moins boisés, enfin, moins présence de bois, on va faire des fûts de 400, de 500 litres, de 600 litres, qui vont être très populaires, notamment sur des cépages comme le grenache ou le chardonnay. Le tonneau va de cette. Dans ces moyennes-là, entre 225 et 600 litres.
Combien ça coûte, un tonneau?
Alors, ça dépend des marchés. Parce qu'il y a des marchés... ça dépend des marchés. Évidemment, quand on vend aux États-Unis, on vend plus cher parce qu'on a des coûts commerciaux sur place qui sont et des coûts de transport qui sont beaucoup plus excessifs. Mais on va compter, aujourd'hui, un bon tonneau, c'est entre 900 et 1000 euros. Ça va durer 10 ans. Après, il y a 10 ans.
Alors voilà, la durée de vie d'un tonneau.
Alors sur le vin, ça va être à peu près entre 3 et 5 ans, selon les vignerons, en moyenne. Et après, le tonneau va partir sur les alcools, en Écosse notamment, sur d'autres élevages. Un tonneau qui a été élevé, qui a élevé du vin ou de l'alcool pendant des années, et il est fragilisé. Souvent, il les reconditionne.
Alors, quels sont les signes d'un tonneau qui commence à être fragilisé?
Oh ben, on le voit, hein, c'est un peu la couleur, et bon, on voit l'aspect et l'intérieur aussi, hein, parce que bon, le tonneau, il est là pour donner de l'élevage, donc une fois qu'il a été utilisé pendant 5 ans, il est plutôt détérioré, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut un renouvellement, c'est tout l'intérêt de produire des fûts neufs pour rafraîchir les parcs d'élevage. Donc ensuite ici, on va avoir l'opération d'éprouvage, parce qu'une fois que le tonneau est monté, on va reproduire les conditions pendant l'élevage, donc en injectant de la pression et de l'eau dans la barrique pour...
Vous simulez pour voir comment réagit le bois.
Exactement, on simule la pression reçue par un tonneau en élevage. Et comme c'est quand même un produit naturel, c'est du bois, et qu'il est poreux puisqu'il réalise l'échange entre l'air et le vin, voilà, on peut voir des fuites apparaître. Et donc dans ce cas-là, on a des pièces de remplacement.
Donc il faut tout démonter alors ?
Non, souvent on ne rechange qu'une pièce ou on met une cheville pour réparer une petite fuite. Mais il y a généralement très peu de cas où on a une très grosse intervention. S'il y a beaucoup de pièces qui sont poreuses, là il faut refaire la barrique, effectivement. Mais c'est assez rare. Voilà. Et donc une fois que le tonneau est monté, il est éprouvé et il est testé, on va s'occuper de la finition, c'est-à-dire qu'on va améliorer.
Il faut que ce soit beau, c'est un beau produit.
Voilà, c'est un produit qui est très coûteux, hein, puisqu'on parle entre 900 et 1000 euros la barrique. Il faut que le client, quand il le déballe, il ait la confiance, a envie de mettre son vin dedans. Sinon, on a raté notre... c'est à la fois esthétique, mais c'est respecter aussi une filière de haute qualité. Les vins qui sont passés en fût en ce moment, c'est 1% de la production mondiale. Donc on est vraiment sur les vins qui sont très très... C'est des vins de luxe, hein, qui sont très très...
Donc il faut que le bois soit bien lisse, bien clair.
Voilà, bien lisse, bien clair, pour bien poncer, bien emballer avant de l'envoyer au client. Et bien évidemment avec un contrôle qualité omniprésent à toutes les étapes pour que ce soit... voilà, il faut des ateliers très 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 bien tenus.
Alors là, je peux dire aux auditeurs que les ateliers sont très propres.
Très bien rangé, très propre, les piles soient bien tracées parce qu'on est sur une filière d'excellence et il faut qu'on soit précis dans toutes les étapes de notre fabrication.
Alors la marque de fabrique, où est-ce qu'on voit, si je vais en Californie et que je tombe sur un tonneau comme ça, qu'est-ce qui me dit qu'il vient de chez Canadel?
On ne le voit pas là, mais on le voit dans l'autre. On le voit un peu plus loin.
Alors...
Donc voici, donc là, effectivement, on va sérigraphier chaque fût avec notre marque, avec un laser dédié.
Donc là, le produit est fini.
Le produit est fini, il est prêt à être expédié. Et donc une fois qu'il est ici emballé, c'est qu'il est vendu. On ne fabrique rien sur stock. On ne fait que de la fabrication.
Sur commande.
Sur commande. Voilà, tous ces fûts-là sont fabriqués sur mesure, en fait. Parce qu'il y a tellement de critères de bois, de contenance, de type de chauffe et de spécification du client que ça, c'est des produits uniques, en fait.
Donc c'est combien de tonneaux par an, une année normale, quand les productions vont bien, quand tout va bien, combien de tonneaux?
Alors, sur ce site, c'est à peu près 8000 tonneaux qui sont faits.
Voilà. Donc l'entreprise fonctionne tout le temps, on peut travailler le bois à toute période avec des outils comme vous en avez.
Alors pour tout ce qui est première transformation, là ça produit toute l'année. Il n'y a pas de. Caler les volumes de production, ça va être l'exploitation forestière, parce qu'il faut que les grumes arrivent en fonction de l'exploitation forestière. Mais pour le tonneau, on est tributaire des commandes des clients. Donc en ce moment on est en saison très basse puisqu'on attend les commandes du premier marché des États-Unis qui sont en train d'arriver. Mais on va y avoir une période très haute entre fin mars et jusqu'à fin décembre.
Parce que les clients sont obligés d'attendre pouvoir voir un petit peu comment va être la production avant de commander. Donc vous êtes tributaire de ce temps de latence, voilà. Un petit peu, pas possible d'anticiper du coup.
Non, en fonction de la qualité des récoltes. Sauf pour les États-Unis où c'est un peu les budgets d'achat qui vont réguler le niveau des commandes. Mais pour tout ce qui est Europe, les vignerons en général attendent de voir la qualité du raisin ou la... S'il n'y a pas eu de gel, s'il n'y a pas eu d'incidents climatologiques qui vont perturber la qualité de la vendange
pour nous commander certains volumes de commandes.
Alors il y a beaucoup de bois stocké évidemment, puisque le bois, la particularité du bois du chêne pour l'élevage des vins, il faut le sécher pendant 2 ans.
Donc à l'air et à l'eau.
Et en fonction des vents, on va orienter les piles pour que le vent pénètre bien dans les piles, parce qu'il faut que les piles soient séchées, le bois soit séché de manière très homogène. Donc il faut écarter les pièces le mieux possible pour qu'elles aient accès à l'air, au vent, à la pluie, pour que ce soit, le séchage soit réalisé de la manière la plus uniforme possible.
Donc là, selon la couleur du bois, on peut savoir quel bois est là depuis le plus longtemps et donc dans l'ordre d'arrivée.
Voilà, on voit là qu'il y a du bois qui vient d'être sorti d'usine, qui est plutôt jaune, blanc-jaune. Donc là, on voit qu'il est frais. Donc plus on va laisser le bois sécher librement, plus il va griser. En fait, c'est l'eau qui est composée dans le bois qui va naturellement se décever avec la pluie. C'est le tanin qui va être dans ce moment. Et pour faire un fût d'excellence, là, ça c'est une...
C'est l'étape à pas louper, ça.
C'est une étape à pas louper. Voilà. C'est tout l'enjeu de temps. Dans nos métiers, c'est le temps. Il faut 200 ans pour faire un très beau chêne. Et il faut 3-4 ans pour que les arômes exprimés dans la confection du fût...
Mais c'est un métier de patience. Ça vous plaît, ça, cette notion du temps, là, que vraiment les choses s'inscrivent dans une durée longue? Ça, c'est une notion qui vous plaît?
Qui est essentielle, en fait. On est obligé d'être patient dans tous les aspects de l'entreprise. C'est des métiers de cycle très long. Parce qu'il faut des générations pour former du personnel, il faut du temps pour sécher le bois, il faut du temps pour... Je crois que le chêne français qui doit pousser pendant 200 ans pour faire des barriques d'excellence, c'est la matière première qui dépasse la vie de l'homme. Il n'y a pas une autre matière première au monde qui demande des cycles aussi longs. C'est pour ça que c'est capital pour nous que l'Office national des forêts et les forestiers privés qui ont des forêts puissent conserver ces méthodes de sylviculture pour pouvoir régénérer les forêts de chênes, pour pouvoir les préserver, pour pouvoir qu'elles soient là sur le long terme. Voilà. On prélève ces arbres prestigieux pour que derrière il y ait un renouvellement de forêts, il y ait un renouvellement pour que dans des générations futures, on conserve ce savoir-faire exclusif qu'il y a en France.
Voilà Frédéric Canadel, on a fait le tour de cette entreprise ici à Trie-sur-Baïse. On a découvert un tas de machines, un tas de métiers aussi. Ma dernière question avant de vous quitter, c'est sur la transmission. On en a déjà un petit peu parlé, mais en parcourant là tous les 15 hectares de cette entreprise, on a pu se rendre compte de la diversité des talents et des compétences qu'il faut mettre en œuvre pour arriver vraiment à faire votre métier. Comment on transmet cette passion, ce goût du travail authentique, ce goût de l'artisanat aux jeunes générations? Est-ce que les jeunes générations sont intéressées par ce genre de métier?
Alors effectivement, c'est des métiers qui sont passionnants puisqu'on va transformer des matières très rares pour élever des grands vins, donc sur une filière très prestigieuse. L'élevage du vin aujourd'hui, c'est 1% des vins élevés en fût de chêne. Uniquement 1% de la production mondiale de vin est élevée en fût de chêne. Donc c'est vraiment une filière d'excellence qui est vraiment très française et qui est à préserver. Et effectivement, pour nous, la clé, c'est vraiment de pouvoir ces métiers d'expertise très, très rare et très artisanale. Notre enjeu quotidien, c'est de pouvoir le former, de former de nouvelles générations à ces métiers. C'est pas facile parce qu'il faut des gens qui soient passionnés. Il faut avoir vraiment des gens qui adorent ce métier-là, la transformation du bois. Alors c'est plus facile en deuxième transformation au niveau des barriques, puisqu'il y a vraiment une finition. Mais pour la première transformation, c'est un peu plus compliqué. Mais on a souvent des bonnes surprises et on peut trouver des nouveaux... On a d'ailleurs récemment, grâce aux visites d'écoles, notamment à Vic-en-Bigorre, des visites d'écoles qu'on pratique dans notre pour inciter justement des jeunes profils à venir travailler chez nous. on a souvent des demandes de jeunes personnes qui veulent venir découvrir nos métiers et se former à nos entreprises. Donc on a souvent de bonnes surprises et notre enjeu, c'est effectivement de les former, de les garder le plus longtemps possible pour travailler sur ces métiers rares.
Merci beaucoup Frédéric Canadel.
Merci.